Il est 19h et vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1.
Macron est un fardeau pour la France. J'espère que la France va se débarrasser du problème Macron le plus tôt possible.
La guerre des mots entre Ankara et Paris, le président turc Erdogan vise à nouveau Emmanuel Macron. Macron est un problème pour la France, dit-il.
Le président français, lui, a un problème plus urgent à résoudre, raccommoder le lien avec la jeunesse. L'opération s'est-elle déroulée sans accroc? C'est ce que nous allons tenter de voir.
Bonne nouvelle pour les possesseurs de tickets restaurants, leur validité est prolongée jusqu'en septembre 2021.
Un moment très attendu au procès des attentats de janvier 2015, la plaidoirie des parties civiles et notamment celle de l'avocat de Charlie Hebdo.
Les négociations sur le Brexit, les Européens disent avoir fait le maximum de concessions possibles.
Ils sont écrivains, ils sont auteurs de science-fiction, ils imaginent les conflits. Deux scénarios viennent d'être soumis à l'état-major français. Ne riez pas, c'est très sérieux. Certains seront même classés secret défense.
Le football est une science inexacte, sauf pour ses entraîneurs, surtout quand ils n'ont pas de résultats. Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur de Nice.
La tendance météo avec Anissa, un week-end agité, un week-end hivernal s'annonce.
Oui, avec toujours deux départements, Julien, placés en vigilance orange, neige et orage, pluie, inondation. Demain, la journée sera agitée sur une grande partie du pays. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On attendait la réponse d'Emmanuel Macron ce soir lors de cette interview avec le réseau social Brut au président Erdogan. Elle pourrait se résumer en une phrase. Pas de polémique.
Le président affecte l'indifférence polie, ou plutôt cherche à calmer le jeu. Et pourtant, Recep Tayyip Erdogan y est allé assez fort. « J'espère que la France va se débarrasser de lui », dit-il notamment, en parlant bien sûr d'Emmanuel Macron. Le leader turc continue son travail de sapre, Imi Bossaran.
Oui, on le rappelle, il avait déjà accusé le président français de colonialisme en raison de son action au Liban après l'explosion de Beyrouth. Il avait ensuite questionné sa santé mentale en raison de son discours sur le séparatisme islamiste. Cette fois, vous l'avez dit, le président turc souhaite tout simplement, on va l'entendre aux Français, de se débarrasser de leur président.
Macron est un fardeau pour la France. Avec Macron, la France vit une période très dangereuse. J'espère que la France va se débarrasser du problème Macron le plus tôt possible. Sinon, il ne pourra pas se débarrasser des gilets jaunes. Ces gilets jaunes peuvent devenir plus tard des gilets rouges.
Une nouvelle attaque qui souligne en fait une tension très forte entre la France et la Turquie sur des dossiers internationaux, notamment celui du Haut-Karabakh. On le sait, la Turquie soutient l'Azerbaïdjan face à l'Arménie. La France, elle, fait partie des médiateurs de ce conflit, mais Erdogan ne lui reconnaît pas ce rôle depuis que l'Assemblée nationale et le Sénat se sont dit favorables à une reconnaissance du Haut-Karabakh. Le président turc a d'ailleurs osé cet autre commentaire aujourd'hui. Si les Français aiment tant les Arméniens, ils n'ont qu'à leur donner Marseille.
Merci Rémi Bossaran.
Emmanuel Macron, qui a été longuement interrogé sur les violences policières, terme qu'il a eu du mal à admettre, le président invitant à se méfier des slogans. Il était aussi attendu sur la question de l'écologie. Vous savez que c'est un thème mis en avant par la jeunesse sur le glyphosate, ce désherbant classé comme cancérogène probable. Emmanuel Macron reconnaît ne pas avoir tenu sa promesse, celle d'une sortie en 3 ans, mais il se défend sur sa supposée inaction et sur la convention citoyenne.
C'est trop facile de dire ça, de dire c'est... Attendez, il y a un truc qui ne nous plaît pas, non, vous n'avez pas fait. Non, mais faut arrêter ce sketch.
C'est donc une expérience démocratique.
Je me suis engagé comme président. 2, je suis allé les voir. 3, j'ai réceptionné les travaux. J'ai dit les 3 mesures que je retenais pas et toutes les autres qu'on allait passer. Moi, je suis vraiment très en colère contre des activistes qui m'ont aidé au début et qui disent maintenant il faudrait tout prendre.
Justement, on
sait tout ce qu'il sait.
On pense à Cyril Dion.
Mais oui, mais c'est pas honnête de sa part. Je le dis très sincèrement. J'ai 150 citoyens, je les respecte comme des parlementaires. Mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible ou le Coran ou que sais-je dans la période si tendue qu'on connaît. Je préfère pas prendre même ces comparaisons. Mais on n'aurait pas le droit à un moment donné de continuer la réflexion collective et de dire il y a peut-être un ou deux endroits où il y a des choses qui ne correspondent pas au problème et qu'on peut en respect mutuel, continuer de travailler ensemble. Ça, c'est la solution des fainéants.
Emmanuel Macron, qui était par ailleurs très attendu sur un exercice toujours assez périlleux, celui qui consiste à s'adresser aux jeunes. Le plus simple pour savoir s'il est retombé sur ses pieds, c'est encore de le leur demander, l'interview.
Oui, alors nous les avons d'abord interrogés sur un des thèmes centraux de l'interview, les violences policières. Babacar, 19 ans, en a été victime il y a un peu plus d'un an en région parisienne. Il se dit satisfait que le président admette l'existence de ces violences. Il salue aussi le lancement de cette plateforme de signalement des discriminations annoncée par le chef de l'État.
C'est une bonne chose. C'est un outil. On verra comment est-ce qu'il sera utilisé et quelle efficacité il aura. Mais au moins, voilà, il y a un problème. on essaie de mettre, mettre en place des actions pour apporter des solutions concrètes. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avancer.
Des solutions concrètes, c'est justement ce qu'attendait Axel, 26 ans, au chômage depuis 3 mois à cause de la crise sanitaire. Il estime que le président est là, resté trop vague sur la majorité des sujets abordés.
Ça m'énerve en fait, sa façon de... Enfin, j'ai l'impression un peu qu'il détourne un peu les questions. Je ne le trouve absolument pas convaincant. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, parce que depuis tout à l'heure, je lis les commentaires et c'est le cas pour beaucoup de monde.
Eh bien si, il y en a une en tout cas qui est satisfaite par la prestation du président, c'est Inès, 28 ans. Pour la jeune femme, Emmanuel Macron est resté fidèle à son « en même temps » sans chercher à séduire l'audience du média brut.
Je suis satisfaite parce que je trouve qu'il garde ses positions et qu'il, enfin, même s'il est dans un média brut plutôt de gauche, il va pas forcément dans leur sens à chaque fois. Par exemple, sur les violences policières, voilà, il a toujours un propos mesuré. Pareil sur tout ce qui est décolonisation, les statuts, etc. Il reste sur sa ligne. C'est ça que j'apprécie de mon côté.
Inès qui reconnaît tout de même que le président a su adopter un ton un peu plus décontracté que d'habitude.
Merci Hélène Terzian.
Ce n'était peut-être pas la mesure la plus attendue, pour moi elle l'était en tout cas, quoique la prolongation des tickets restaurants qui va en intéresser plus d'un.
Oui, elle va rendre service aux salariés et cela représente pas mal d'argent pour les restaurateurs. Les tickets restaurants 2020 vont rester valables jusqu'au 1er septembre 2021, Aurélien Fleureau.
Oui, c'est un effet de ce deuxième confinement. Ce qui avait été décidé en juin dernier est donc prolongé. D'abord, le doublement du plafond d'utilisation chaque jour de 19 à 38 euros. Et puis le fait de rendre ces titres restaurants également utilisables le week-end. Tout cela est donc prolongé jusqu'au 1er septembre 2021. Une bonne nouvelle pour les salariés et pour les restaurateurs. D'autant plus que ce plafond quotidien plus élevé a déjà fait évoluer nos habitudes de consommation, comme l'a noté Julien Tanguy, le directeur général France d'Edenred.
Prolonger la date d'utilisation des titres, c'est une des manières de permettre aux utilisateurs de remettre cet argent dans l'économie et dans les restaurants. La transaction moyenne qu'on mesurait avant cette décision était de l'ordre de 14 euros. C'est-à-dire que quand vous alliez au restaurant avec des tickets restaurants digitalisés, vous dépensiez en moyenne 14 euros. Aujourd'hui, grâce à ce relèvement de plafond, on dépense 21 euros. Ce relèvement de plafond a vraiment eu un impact très significatif.
Et ces tickets restaurants valables jusqu'en septembre 2021 peuvent aussi être utilisés pour des livraisons de repas ou dans les commerces alimentaires qui les acceptent habituellement. Mais attention, ce plafond de 38 euros et l'utilisation le week-end ne concernent pas la grande distribution.
Merci Aurélien Fleureau. Le procès à présent des attentats de janvier 2015 avec un moment forcément très attendu. La plaidoirie de l'avocat historique de Charlie Hebdo.
Oui, il plaidait en dernier avant la tombée de la nuit. Richard Malka savait qu'il serait non seulement attendu, mais aussi très écouté. Après tout, la tuerie de janvier 2015 a commencé dans les locaux de Charlie Hebdo. Justin Morin, l'avocat de Charlie, a appelé à ne jamais renoncer face à l'obscurantisme.
Oui, on a beaucoup parlé d'une plaidoirie pour l'histoire. Richard Malka en était bien conscient. Alors, il a débuté par un contre-pied. Je ne plaiderai pas pour l'histoire parce que je m'en fous de l'histoire. Je veux plaider pour aujourd'hui. C'est à nous de nous engager pour rester libres. Le ton est ferme. Il accélère. Il se passe quelque chose. Il cite alors les Lumières, les encyclopédistes qui se débarrassent des religions au profit de la raison. La Révolution française qui consacre la liberté d'expression, le droit de blasphémer, pilier de la Troisième République. Alors vous voyez, dit-il, on n'a pas le choix. On ne peut pas renoncer à la libre critique des religions, ce serait renoncer à notre histoire, à l'indomptable liberté humaine pour vivre enchaînée. Et Charlie Hebdo ne peut pas renoncer, jamais. À la sortie de l'audience, Richard Malka est encore habité.
Le problème, c'est ce que nous sommes. Nous sommes l'autre, avec un autre universalisme de raison et de liberté. Et il ne le supporte pas. Ne renonçons pas. Il n'y a aucun salut dans le renoncement. Il n'y a aucun salut dans la lâcheté. Et il n'y a aucun salut dans l'obscurantisme.
Après un hommage à Charb, il a conclu sur ces mots « Charlie vivra », un hommage aussi aux rescapés du journal, quasiment tous présents cet après-midi.
Justin Morin en direct de la cour d'assises spéciale de Paris.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du journal à 19h11 avec Christophe Lamarre et on part à Londres. À Londres où on essaie d'arracher un accord de sortie de l'Union, plus facile à dire qu'à faire.
Bruxelles estime avoir fait le maximum. On rappelle l'enjeu de trouver un accord sur la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne avant le 31 décembre. Isabelle Horry, on a quand même l'impression que les choses s'accélèrent.
Oui, alors c'est vrai que le journaliste qui couvre le Brexit a quand même pris l'habitude de ne pas trop s'emballer, mais ce soir, il y a des signaux qui laissent penser que le week-end va vraiment être décisif. Ça bouge, ça passe ou ça casse dans les prochaines heures, selon une source proche des négociations. Michel Barnier est à Londres, le négociateur européen avait envisagé de rentrer cette semaine et même aujourd'hui, mais il n'a pas pris le train. Il devait informer les représentants des 27 par visioconférence, il ne l'a pas fait, car les négociations sont trop intenses, a expliqué un diplomate. Personne n'ose faire de pronostic sur le fait que les négociations se terminent avec un accord ou pas. Depuis des mois, on le sait, elles achoppent sur les trois mêmes sujets, la pêche, les risques de concurrence déloyale après le Brexit et la manière de régler les éventuels différends. Plus de 600 pages de traité sont déjà rédigées, mais pas les passages sur ces trois points. Alors les négociateurs ont fait une petite pause en fin d'après-midi, mais ils reprennent ce soir. Quoi qu'il arrive, le résultat des négociations devra être présenté au Capital. Une réunion de leurs représentants vient d'être programmée pour dimanche. La France a déjà prévenu qu'elle était prête à mettre son veto si l'éventuel accord ne lui semblait pas bon.
Isabelle Horry à Bruxelles qui suit pour nous ces négociations sur le Brexit.
Imaginez maintenant les conflits du futur. Guerre climatique, guerre économique. Des auteurs de science-fiction ont pensé la guerre de demain et cela intéresse beaucoup l'armée.
Oui, et c'est même l'armée qui le leur a demandé. Ils sont effectivement auteurs, romanciers ou dessinateurs, des grands noms de la science-fiction et tous français, c'est préférable. Nous sommes quand même sur des dossiers sensibles. Audeleroy, deux scénarios ont été dévoilés officiellement cet après-midi.
Oui, et le premier récit nous emmène en Méditerranée. En mer, aucun équipage, tous les bateaux, marchands et militaires, sont pilotés depuis la terre, un terrain de jeu rêvé pour une piraterie barbaresque qui renaît. Parallèlement, un virus informatique s'infiltre dans les implants neuronaux des militaires. Leur perception de la réalité en est modifiée. Et ça se termine avec une immense bataille navale de navires militaires aux algorithmes piratés qui se tirent dessus. Bref, c'est le chaos. Le second scénario met en scène une gigantesque ville flottante, sorte de bidonville de réfugiés climatiques et économiques. En 2040, elle devient une cité-refuge de pirates lourdement armés. Ils vont mener d'ailleurs une puissante expédition en Guyane française. Objectif, mettre la main sur la fusée Ariane prête à décoller. L'armée française les repousse. Et puis au fil des ans, cette drôle de communauté s'érige en État, avec drapeau et constitution, mais aussi avec ses premières scissions religieuses, culturelles, idéologiques, démultipliant ainsi les menaces. Voilà deux scénarios imaginaires, mais tout à fait réalistes, qui doivent pousser les militaires français à anticiper tout un faisceau de nouveaux dangers. D'ailleurs, dès janvier, les auteurs de science-fiction se remettent au travail pour imaginer de nouveaux conflits inédits.
Merci Audeleroy pour la science-fiction appliquée à l'armée. C'est absolument passionnant.
Effectivement.
Le football, c'est donc terminé. Oui, ça me passionne moi aussi parce que j'avais perdu le fil. C'est donc terminé, mais là on va parler football et c'est pas de la science-fiction. C'est terminé pour Patrick Vieira à Nice. L'entraîneur a été limogé aujourd'hui, Julien.
Oui, on se doutait que cela ne pouvait pas durer. L'ancien champion du monde 98 paie les mauvais résultats des Niçois, à la fois en championnat mais aussi en Coupe d'Europe. Simon Ruben, c'est la défaite contre Leverkusen 3-2 qui a fait basculer le destin de Patrick Vieira.
Oui, c'est ça. L'échec sur la scène européenne plus globalement aura précipité la fin de Patrick Vieira à Nice. Hier, nouvelle défaite avec 15 buts encaissés en 5 matchs de Ligue Europa. Vieira qui est le deuxième entraîneur limogé en Ligue 1 cette saison. Il faut dire que Nice a des ambitions depuis sa reprise par Ineos, le géant de la pétrochimie, qui compte investir fortement dans les années à venir. L'échec européen est d'autant plus mal passé. Voilà qui a fait perdre le peu d'appui dont Vieira disposait, lui qui était déjà fragilisé en interne et de plus en plus critiqué par les supporters. Vieira qui peut avoir des regrets parce que son équipe a été très touchée par le Covid, notamment à l'automne, au point de rater des matchs. Il y a eu aussi la blessure de Dante, le défenseur brésilien, l'âme de cette équipe qui a coûté très cher. Vieira qui sera remplacé dimanche contre Reims par Adrián Urcea, le de retour au club depuis un an et qui a pris une place de plus en plus importante dans l'équipe ces derniers mois, mais ce ne devrait être qu'un intérim.
Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Merci Christophe. Bon week-end.
Merci Julien.
Bon week-end. Faites attention à vous quand même. Hein. Et faites pas trop chauffer la carte bleue quand même dans les magasins. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on a le droit d'aller dans les commerces.
Eh bien, vous savez quoi ? Je vais la laisser ici. Comme ça,
ah bah
je
voilà, ça c'est une bonne idée. Merci. Bah,
laissez
en tout
le
cas.
Code avec.
Vous me la gardez ?
Vous perdez pas l'heure, vous voyez ça. Hein.
Jamais, jamais.
Hein ? Bon, de la pluie, du froid, de la neige et du vent, c'est vrai que ça donne pas envie d'aller se balader.
Ah, c'est un programme bien hivernal, effectivement, pour ce samedi. On va rester au chaud avec toujours une vigilance orange pour les Hautes-Alpes. Vigilance orange neige, parce qu'on attend beaucoup de neige, notamment
du côté du massif des Écrins. Et puis une vigilance orange, orage, pluie et inondations pour la Corse du Sud. Les pluies sont très intenses, accompagnées de coups de tonnerre sur l'île de Beauté. Demain, le temps reste très pluvieux sur la Corse. Une perturbation va toucher toute la côte atlantique, de la Normandie jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Il va pas faire beau et en plus le vent souffle fort jusqu'à 90 km/h. Les précipitations sont importantes en Normandie, Bretagne, Poitou, Charente. Là on attend des flocons demain matin.
Bon bah c'est bref, bon, on peut s'arrêter là.
Vous l'avez compris, il ne fait pas beau demain sauf en Île-de-France, sur la vallée du Rhône, en Bourgogne et sur le bassin méditerranéen. Là le temps sera sec avec des éclaircies. Demain matin on va gratter les pare-brises en Auvergne avec moins 4 degrés et nous aurons 5 à 15 degrés dans l'après-midi, 8 à Paris, ça baisse.
Très bien chère madame, merci beaucoup Anissa.
Bon week-end.
Je vous souhaite un très très bon week-end, reposez-vous bien et on se retrouve lundi.